Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Très bon dimanche à tous. Mon invité est au téléphone aujourd'hui, direction Strasbourg. C'est Bruce Benamran qui est avec nous. Bonjour Bruce.
Bonjour.
Vous êtes vulgarisateur, je vous appelle moi le grand simplexificateur, est-ce que ça vous va ?
Moi ça me va.
Ça va. Créateur de la chaîne YouTube.
C'est pas nécessaire, mais simplificateur, j'aime bien.
C'est vrai. Vous êtes le créateur de la chaîne YouTube qui s'appelle Y Penser. Déjà plus d'un million 150 000 abonnés sur YouTube, où vous avez débarqué en 2013. Et vous publiez aujourd'hui votre premier roman qui s'appelle L'ultime expérience chez Flammarion. Alors c'est un thriller scientifique. C'était le bon moment pour sortir un livre, hein.
Alors c'était parfait. Idéalement, au lieu de le sortir le 7 octobre, on l'aurait sorti 3 semaines plus tard, comme ça il serait sorti pendant le confinement, ça aurait été idéal. C'est une horreur.
Mais au moins, ça donne à tout le monde une bonne idée de se réinventer, puisque c'est un mot qu'on utilise en permanence aujourd'hui, et à trouver des solutions, puisque vous aviez prévu toute une série de dédicaces, par exemple, à la rencontre de vos lecteurs, et de ceux qui suivent votre chaîne. Mais enfin, en tout cas, vous avez entendu le président de la République qui s'est exprimé mardi soir. Donc, les librairies ont réouvert, c'est parfait.
Oui. Mais alors, voilà, maintenant, on va être un peu compréhensif envers les librairies. C'est-à-dire que les librairies, il faut qu'elles occupent leur mois de décembre à essayer de sauver leur économie de fin d'année, qui, avec Noël qui approche, c'est quand même beaucoup de chiffre d'affaires. Et donc, on imagine bien qu'elles vont avoir d'autres choses à faire que d'envisager des rencontres. Surtout si elles sont limitées à une personne tous les 6 ou 8 mètres carrés dans la boutique, quoi. Donc les dédicaces, en tout cas encore en 2020, ça va être compliqué, je pense.
Alors Bruce Benamran, moi j'ai l'impression de bien vous connaître. C'est un peu le cas de tous les gens dont on a l'habitude de suivre les vidéos. J'étais très curieux de savoir à quoi ressemblerait votre premier livre. Vous avez eu un mentor. Est-ce que vous vous êtes renseigné auprès de quelqu'un quand vous avez attaqué ce premier livre ?
Pas vraiment. Non, je dirais pas ça. C'est une fois que je suis rentré dans la rédaction, j'avais évidemment un éditeur chez Flammarion avec qui on échangeait beaucoup. Ce livre, je l'ai vraiment fait quasiment dans mon coin, quoi.
Mm-hmm. Pas de mentor. Même si vous remerciez vos influences littéraires, hein, Yatchok Palahniuk, l'auteur de Fight Club, hein, notamment, il y a René Barjavel dont on parle plus beaucoup, et puis il y a le grand Bernard Werber à qui on pourrait penser, et puis Aaron Sorkin, tous ces gens finalement qui font partie de votre univers et de vos références.
Oui, alors ce qui se passe, c'est moi j'ai grandi aussi avec les livres de Bernard Werber et de Barjavel. Alors notamment, Werber, évidemment, la trilogie des fourmis, puis ensuite Thanatonaut, Empire des anges, tout ça. Et Barjavel, donc la nuit des temps, le grand secret. Chuck Palahniuk, c'est beaucoup plus récent. Chuck Palahniuk, en fait, il m'a vraiment donné l'amour de... C'est-à-dire que lui, c'est vraiment le spécialiste de l'écriture des personnages qui sont complètement fous, qui sont très complexes, qui sur le papier, normalement, devraient être absolument incroyables. Et en fait, il les rend très, très réalistes. Et Sorkin... Pour le coup, donc, lui n'est pas vraiment auteur de livres, puisqu'il écrit plutôt des scénarios, mais il m'a fait apprécier. Il a une écriture qui est très intelligente, quoi. Moi, j'apprécie beaucoup. Comment ?
Un roi de punchline aussi.
Oui, oui, mais c'est à la fois sa force et sa faiblesse. C'est-à-dire qu'il est incapable d'écrire un dialogue entre deux personnages sans que les deux personnes soient absolument érudites et sachent citer plein d'auteurs classiques. Verbatim, mais c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup.
Il y a beaucoup de personnages d'ailleurs dans votre livre. Comment est-ce que vous les avez pensés ?
Oula, alors ça a été un long boulot en fait. Ça a été près d'un an à accumuler des post-it un peu dans mon bureau un peu partout avec, et puis sur chaque post-it il y avait soit un petit bout d'intrigue, soit un bout de thème, soit quelque chose que je voulais vraiment intégrer, et notamment aussi plein de caractéristiques des personnages. Et c'est-à-dire que les personnages qui sont dans ce livre ne ressemblent plus aux personnages que j'avais imaginé au début. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui ont fusionné, il y en a d'autres qui ont disparu. Mais ça s'est vraiment fait, ça s'est organisé autour de ce que je voulais raconter.
Sans vouloir spoiler.
C'est pas tout à fait des personnages fonctions, mais on est quand même parti pas mal de personnages fonctions.
Qu'est-ce que vous appelez des personnages fonctions ?
Personnage fonction, c'est dans une narration, à un moment donné, on a besoin d'un antagoniste pour pousser notre héros, je dis entre guillemets, à faire quelque chose. Donc on a besoin d'avoir quelqu'un qui va pouvoir s'opposer. Et alors ensuite on réfléchit à cette personne, comment est-ce qu'on veut qu'elle s'oppose? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'elle réussisse? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut la même chose que le héros, mais qui le veut avant? Et au fur et à mesure que ça, en développant, on finit par dessiner les contours d'un personnage.
Alors on va écouter la bande-annonce de votre livre, si vous voulez bien.
D'accord.
Risques qui ont conduit à la mort d'un homme accroché par une voiture. Même risque qui ont conduit à la mort d'un homme.
Votre livre, c'est l'histoire de Sylvain qui, un matin, alors qu'il s'apprête à partir travailler, voit en direct à la télévision l'accident dont il vient d'être victime et dont il n'est pas sorti vivant. C'est pas si courant, finalement, de rouler en direction de sa propre mort.
Oui, alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il est surpris d'entendre à la télé qu'il est mort. D'abord parce qu'il n'est pas mort, et puis aussi parce qu'il n'est pas... il n'est pas célèbre ni rien, il n'a pas d'homonyme célèbre, donc il n'y a aucune raison. C'est-à-dire, quand bien même il aurait eu un accident de voiture, il n'y a aucune raison qu'on en parle à la télé, quoi.
Je me suis amusé à taper Sylvain Guérin sur Internet. Il y en a un qui travaille à l'Élysée. Hein.
Ah oui ?
Ouais. Travaille à la présidence de la République.
C'est pas une erreur.
J'ai chopé son 06, mais c'est pas le même.
C'est effectivement pas le même. Non, mais alors, à la base, moi, si je suis parti sur Sylvain Guérin, c'était vraiment pour partir d'un personnage lambda. Je crois que Sylvain, c'est dans le top 50 des prénoms les plus communs en France. Ouais. Et Guérin, c'est dans le top 50 des noms de famille. Quoi. En fait, c'est un Jean Dupont qui s'appelle pas Jean Dupont.
Ouais. Je dois dire que dans votre livre, il y a beaucoup de prénoms lambda, quand même. Hein. Vous nous avez soignés.
Oui.
On va pas spoiler.
Il y a pas que des prénoms. Après, ce qui se passe, c'est qu'il y a pas que des prénoms. Et il y a moi j'aime beaucoup placer des Easter eggs dans ce que je fais, c'est-à-dire des petites blagues personnelles. C'est il y a notamment des personnages qui ont des noms de rois. Enfin, il y a tout un tas de choses autour des noms et des prénoms.
Ouais. Moltaline, par exemple.
Ouais, il y a Moltaline, il y a Kowalski,
Kowalski. Kowalski, il est culte, mais alors il faut avoir des références cinématographiques. Hein.
Bah, alors,
si on pense au même, ou... je ne sais pas si on pensait au même, en fait.
Non, alors.
Ouais.
C'est que maintenant, oui, mais en réalité, c'est pour moi la recherche, elle a plutôt été étymologique, en fait, sur ces noms-là. Sur les noms étrangers. J'avais envie qu'ils puissent quand même véhiculer quelque chose pour ceux qui parleraient la langue.
Ouais, Molchaline, ça veut dire silencieux.
Entre autres choses.
Et pour vous, ça veut dire quoi ?
Non, mais après, le problème, c'est qu'on rentre, on rentre dans du spoiler.
D'accord, ok. Je voulais pas. J'essaye de surfer.
Non, non.
On, vous avez raison.
Non, mais le silencieux, ça passe très bien. Le silencieux ne spoil rien.
Dans une pièce russe bien connue. Mais après, voilà. Mais c'est intéressant parce que j'ai essayé de jouer avec vous et vous nous baladez bien quand même, en fait.
Bah, j'essaye. En tout cas, moi, c'était clairement mon objectif. C'est-à-dire qu'en tant que lecteur, j'aime beaucoup justement les thrillers dont je sens assez rapidement où est-ce qu'il essaie de nous emmener et où, en fin de compte, j'ai complètement tort. J'adore ça.
Mmh. Donc, il reçoit un SMS. Ne va pas voir Michael, ne va pas au bureau. Michael, c'est son boss. Hein.
Ouais.
Voilà. Et là, c'est le drame.
SMS d'origine inconnue pendant qu'il est en train de se préparer et qu'il a entendu à la télé déjà ce matin qu'il était mort. Et soit un SMS qui dit, va pas au travail, on cherche à te tuer.
Enfin, pas inconnu, il est signé. Hein.
Alors, il est signé, mais le numéro est inconnu. Il est signé d'une lettre, il est signé d'un cas.
Par cas.
Il ne sait pas qui est ce cas.
Bon, on va écouter une deuxième bande-annonce. Alors Bruce, c'est le générique de quoi?
Ah, Le Prisonnier, si vous me prenez par les sentiments, je voyais Patrick McGowan au volant de sa Lotus.
Ouais.
J'adore cette série.
C'est quoi son numéro?
Alors, il n'est pas un numéro, il est un homme libre, mais c'est le numéro 6.
Ouais. Moi, j'ai vu un lien, mais après, vous savez, quand on lit, parfois, on s'invente et on se fait des films.
Oui, bien sûr. Et puis, je pense que chacun, il met un petit peu de sa propre expérience et de sa propre bibliothèque personnelle, c'est sûr. Mais ouais, c'est-à-dire que il y a sans doute un côté. Alors, je veux pas employer de grands mots, donc je vais pas dire qu'il y a un côté kafkaïen, parce qu'il faut pas non plus déconner, c'est pas, on n'est pas non plus à ce niveau-là de la littérature. Mais il y a un côté effectivement un peu absurde à ce qui arrive, en tout cas qui a l'air absurde à ce qui arrive à Sylvain Guérin. Un peu comme effectivement, à cet espion, donc numéro 6, qui n'est donc pas un numéro. Et puis en même temps, ça tombe bien, puisque le bouquin, L'Ultime Expérience, c'est aussi un bouquin d'espionnage industriel, un peu.
Ouais. Et puis, on retrouve un genre que vous aimez bien, la science-fiction.
Alors ouais, il y a une pointe d'anticipation. C'est-à-dire que, moi, c'est vraiment ce qui me plaît dans la science-fiction, c'est vraiment la partie anticipation. C'est la partie, voilà un truc qui pourrait potentiellement arriver dans 10, 20 ou 50 ans.
Ouais.
Pas le côté, c'est-à-dire que j'aime beaucoup tout ce qui peut être vraiment beaucoup plus extravagant, à base de conquêtes, de nouvelles planètes, dans des univers parallèles ou de choses comme ça. Mais ce qui me touche vraiment en science-fiction, c'est l'anticipation, c'est le « voilà ce qui arrivera demain ».
Mais quand on pense au Prisonnier, par exemple, qui est une série qui doit avoir quoi aujourd'hui au moins 50 ans, facilement, oui, un peu plus de 50 ans.
J'irais même ouais, 60 ans, à mon avis.
Ouais, c'était incroyable ce qui se passait dans cette série, déjà.
Ah, c'était génial. Et... c'est-à-dire c'est une des premières séries, je dis ça de mémoire, de l'époque, parce que je l'ai pas vu à l'époque, mais de ma connaissance des séries, c'est une des premières séries qui avait une où les gens attendaient la fin, en fait, où c'était pas juste des épisodes, puis après il y avait l'épisode suivant, puis l'épisode suivant, c'est-à-dire que les gens attendaient une fin. Et quand la fin est finalement arrivée, Patrick McGowan a dû s'exiler pendant un temps, parce qu'il était menacé de mort, en fait, par les fans. Parce qu'ils n'étaient pas du tout contents de la fin. Donc, quand on voit aujourd'hui comment les gens peuvent réagir à des fins de série, ouais. On est encore petits joueurs.
Déjà, 17 épisodes. On peut les voir sur YouTube, hein, d'ailleurs, aujourd'hui. Donc, si vous ne les avez jamais vus, faites-vous ce plaisir.
Ah oui, c'est un truc à voir. Après, je sais pas quelle est la version sur YouTube, mais si jamais ce n'est pas une bonne version, ça vaut vraiment le coup d'essayer de trouver une jolie version... Je crois que ça existe, c'est sorti aussi en DVD, en Blu-ray, pour ceux qui aiment vraiment, parce qu'il y a les fêtes de fin d'année qui approchent.
Ouais,
c'est une bonne idée.
Voilà. Et pour les autres, maintenant que les libraires ont réouvert, vous pouvez acheter L'Ultime Expérience. C'est le premier roman de Bruce Benhamrand. Et on en parle jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et notre invité aujourd'hui, c'est Bruce Benhamrand, qui publie L'Ultime Expérience aux éditions Flammarion. Donc voilà, on reprend la promotion du livre, hein, puisque toute la vie s'est arrêtée. Et on parle de ce livre en évitant de spoiler ce qui se passe dedans, quand même. Hein.
Ouais, ce qui est hyper compliqué, je me rends compte. C'est-à-dire que moi, une fois que j'ai passé le pitch que je raconte, donc Sylvain Guérin, qui entend qu'il est mort, puis qui reçoit un SMS, une fois qu'on a passé ce truc-là, qui au final, dans le livre, on est page 12, hein, c'est très compliqué de dire quoi que ce soit sans spoiler, en fait.
Ouais. Et il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Hein. C'est parce qu'on parlait de Bernard Werber tout à l'heure. Beaucoup ont pensé à Depuis l'au-delà. Mais non, c'est pas vers là qu'il faut aller.
Non, c'est pas... voilà, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs quand j'avais annoncé le livre. Je dis, c'est pas un type qui est décédé. Et puis en tant que fantôme, il va enquêter sur sa propre mort. C'est pas le principe. Mmh. Le principe, c'est vraiment qu'on a... On a annoncé sa mort, ou au moins la mort d'un homonyme, et qui va se retrouver pris dans une machination assez complexe.
Donc la légende qui dit que vous avez écrit et que vous collez des post-it partout est vraie?
Oui, c'est totalement vrai. Et aujourd'hui, il n'en reste pas grand-chose de ces post-it. C'est à un moment donné, je pense, après avoir vécu pendant un an dans les post-it, je les ai quasiment tous bazardés. Il me reste juste un panneau de bois assez fin sur lequel j'ai mis vraiment les grandes étapes clés de l'histoire. C'est à peu près tout ce qui me reste de cette époque. Mais par contre, maintenant, j'ai des nouveaux post-it pour un prochain livre.
Qui utilise le verbe débarouler dans un thriller scientifique, à part vous?
Je ne sais pas. J'avoue, je ne sais pas. D'ailleurs, je me demande, c'est le débarouler. Je pense qu'il doit être au discours direct. Je pense que c'est un personnage qui dit débarouler.
Ouais, mais débarouler, oui, c'est je ne sais même pas ce que c'est comme langue, à part du lyonnais.
C'est ça, c'est Sylvain qui parle. C'est Sylvain qui parle quand il parle au lecteur et qui parle à propos de, qui parle de l'assistante de Michael et qui dit que c'est pas du tout son genre de débarouler dans mon bureau comme ça sans dire bonjour. Mmh. Et ouais, alors ça, je pense qu'on. Alors moi, pour le coup, débarouler, c'est vraiment un mot que j'utilise couramment, comme d'autres diraient débouler. Et je pense que on peut remercier Kaamelott pour ça. Je pense que j'ai pris pas mal d'expressions lyonnaises de Kaamelott.
Ouais. Bon, la seule chose qu'on peut dire, c'est que Sylvain travaille dans une biotech, et on n'en dira pas plus sur ce qu'il fait.
Il travaille, il fait un boulot assez lambda dans une biotech. Il analyse des données, quoi. Il fait vraiment un boulot de bureau, comme plein d'autres gens font le même type de boulot. Il a pas un boulot particulier. Je veux dire, c'est pas un inventeur, c'est pas un découvreur, c'est pas. Voilà, c'est un type lambda à qui va arriver des choses extraordinaires.
Mr Nobody. Alors, il souffre quand même d'une pathologie qui vous intéresse beaucoup, c'est la migraine.
Oui, alors moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche au cerveau et tous les effets que ça peut avoir sur le cerveau. Et donc, effectivement, il suit un traitement parce qu'il est sujet à des migraines et que ces migraines lui provoquent des espèces d'hallucinations.
Ouais, vous êtes un migraineux vous-même ?
Alors, non, pas du tout. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé à la migraine. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne, d'ailleurs, sur la migraine. C'est-à-dire que c'est... Moi, j'ai grandi assez classiquement avec cette idée que migraine, ça veut dire mal à la tête. Les gens, ils ont mal à la tête, ils disent « j'ai une migraine », et puis c'est tout. C'est un peu comme quand on dit « ouais, j'ai la grippe » pour dire juste « j'ai le nez qui coule ». Et ce qui se passe, c'est que depuis que je sais ce que c'est réellement être migraineux, je fais très attention à plus dire ça. Parce que c'est violent, hein. Avoir des migraines chroniques, c'est vraiment violent. Et du coup, ça m'a assez intéressé de savoir qu'est-ce qui pouvait provoquer cette tempête, littéralement une tempête sous un crâne, quoi. Je veux dire, c'est régulièrement. Quoi.
Avec ou sans aura?
Avec ou sans aura. Moi, de temps en temps, je fais des migraines ophtalmiques avec aura. Des petits trucs qui scintillent devant les yeux, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, et puis voilà.
Ouais. L'aura, quand on parle de migraine, c'est, qu'est-ce que c'est? Comment vous le définissez, vous?
Alors, l'aura, c'est vraiment une espèce de d'illusion. Généralement, c'est visuel. C'est-à-dire pour ceux qui ont des migraines ophtalmiques, ça représente vraiment ces espèces de petites formes géométriques qui scintillent dans votre champ de vision et qui disparaissent pas, même si vous fermez les yeux, et puis ça s'estompe au bout d'un quart d'heure, 20 minutes.
Laura, l'ultime expérience, votre roman, a-t-il au départ une base historique? Donc, vous êtes tombé sur un dossier de la guerre froide, peut-être, ou pas?
Non, pas du tout. Ça s'inscrit dans un contexte. Moi, j'avais vraiment envie que ça s'inscrit dans une réalité. Donc, ça s'inscrit dans un contexte historique, notamment avec des scientifiques qui sont extraits de l'Allemagne à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par les Russes. Ça, c'est quelque chose qui a existé. Mais l'histoire elle-même, non, elle est totalement fictive. Et ouais.
Pas de dossier qui aurait circulé à la Libération.
En tout cas, pas à ma connaissance.
Sur lesquels vous seriez tombé en secret?
Non. Je ne peux ni confirmer ni nier ces allégations.
Ah, vous avez été rattrapé par l'actualité, hein?
Oui.
Avec le vaccin. Avec le vaccin Covid.
Ouais, d'autant qu'il est question dans le livre d'une espèce de. Alors c'est même si c'est assez. C'est assez secondaire. Dans le livre, il est quand même question à un moment donné d'un mal qui se transmet et puis qui a l'air d'attaquer pas mal de monde un peu partout dans le monde.
Ouais. Vous êtes rattrapé par l'actualité, un visionnaire finalement.
J'espère pas. J'espère pas pour le coup, mais non, par contre c'est bien qu'on commence à alors faut pas non plus vendre la peau d'ours, mais on commence à voir le bout du tunnel, c'est pas mal.
Ouais,
c'est et pas mal pour ouais, pardon.
On y va, le tunnel est long, hein, donc on peut y aller tranquillement.
Oui, Mais bon, voilà. Après, ce qui se passe, c'est que maintenant, on va rentrer dans une problématique que à laquelle les gens ne sont pas habitués, qui est que parce que nous, on a globalement, c'est assez courant dans le monde médical, mais pour le grand public, c'est assez rare qu'on ait un nouveau vaccin. C'est-à-dire que les vaccins qu'on prend normalement, bah, à part le vaccin de la grippe qui sort tous les ans, c'est normalement le vaccin de la rougeole, la varicelle, tout ça, c'est des choses qui existent depuis longtemps pour nous. Et là, il y a un truc qu'on n'a pas, auquel les gens ne sont pas habitués. C'est les problèmes logistiques, c'est le temps qu'il va falloir pour fabriquer 8 milliards de doses et le fait que ça va se faire dans la durée. C'est-à-dire que voilà, les gens peuvent s'imaginer peut-être que ça, le vaccin, il existe, demain je me fais vacciner, non, ça va prendre un certain temps. Mais en tout cas, c'est-à-dire que plus ça va aller dans la bonne direction, plus on va pouvoir relâcher un peu les verrous, donc ça c'est bien.
Alors sur votre chaîne YouTube, Y Penser, vous traitez rarement d'actualité ni de sujets politiques. Comment vous faites pour traiter une question et un sujet aussi polémique que le vaccin, par exemple?
Ce qui se passe, c'est là pour le coup, on est vraiment dans un problème actuel, mais qui n'est pas lié à une actualité, qui est que aujourd'hui, je sais pas dire exactement à quel moment ce shift s'est fait, mais c'est-à-dire qu'il y a quelques années, quelqu'un qui était anti-vaccin était facilement considéré comme l'idiot du village. C'était le gars qui dit voilà, c'était pareil que dire que la Terre était plate. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, être anti-vaccin, comme penser que la Terre est plate, ça devient de plus en plus considéré comme une opinion aussi valide que penser que la Terre est ronde ou que les vaccins fonctionnent. Mmh. Et ce qui se passe, c'est que moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que les vaccins fonctionnent. Les vaccins ont sauvé des millions, mais littéralement des millions de personnes depuis que ça existe. Que chaque fois qu'il y a un endroit où les gens refusent de se vacciner, dès qu'il y a le mauvais virus qui passe, c'est une hécatombe. Et il y a quand même des gens qui essaient de... Alors, même sans rentrer dans les conspirationnistes, c'est-à-dire même sans rentrer dans ceux qui pensent qu'on veut nous vacciner pour nous mettre des puces électroniques, je sais pas quoi. C'est même pas le sujet. C'est-à-dire que simplement, les gens qui sont contre le vaccin, parce que pour eux, c'est une méthode non naturelle. Alors qu'il n'y a pas plus naturel qu'un vaccin, finalement. Et ce qui se passe, c'est que ce que je me dis, c'est que ça repose avant tout sur un problème d'ignorance. C'est-à-dire, c'est pas de la bêtise, parce que les gens sont pas spécialement bêtes. On n'est pas plus bêtes ou plus intelligents les uns que les autres. C'est juste que il y a une ignorance sur le fonctionnement. Donc du coup, moi, j'étais parti sur, je vais aller à l'Institut Pasteur, discuter avec un directeur de vaccinologie qui va m'expliquer comment ça marche. Et je sais que de toute façon, il y aura des gens pour dire, oui, mais bon, c'est l'Institut Pasteur, c'est Big Pharma, c'est tout ça. Ça, on peut pas y couper. Ça, il faut faire avec. Mais au moins, il y aura une bonne partie des gens qui vont regarder, qui entendront comment ça marche.
Quelle est la question que vous vous êtes posée avant d'écrire votre livre, si vous vous en êtes posé une?
Je me suis posé plein de questions. Sans doute, la question qui m'a celle qui a déclenché, on va dire, pas tout à fait le livre, mais celle qui a déclenché tous les mécanismes qui ont donné le livre derrière, c'était pendant que je tournais ma vidéo sur les faux souvenirs. Donc ça commence à dater, je crois que c'est de 2016, cette vidéo. Donc c'est les travaux d'Elisabeth Loftus.
Faut expliquer, c'est comment finalement dans le cerveau on peut arriver à vous créer des faux souvenirs d'enfance, par exemple, que vous n'avez pas eu.
Ouais, voilà, ce qui se passe, c'est que le constat est assez simple, c'est que aucun des souvenirs qu'on a n'est parfaitement vrai, déjà. Tous les souvenirs qu'on peut avoir, y compris les plus récents, sont au moins partiellement reconstruits par le cerveau parce qu'on n'enregistre que des bouts d'informations. C'est pas comme un film qu'on enregistre et ensuite on se le repasse. Et il a été montré par Elisabeth Loftus et ensuite par Julia Shaw et puis d'autres équipes que il est possible de conditionner des gens et de les faire se rappeler de choses qui n'existent pas. Et ça a été montré aussi pour le coup sur une souris qu'on pouvait implanter un faux souvenir. Et du coup, moi, je m'étais posé la question, je me suis dit, mais si on peut plus faire confiance à sa propre mémoire, au fond, à quoi est-ce qu'on peut faire confiance? À quoi est-ce qu'on peut se fier? C'était ça l'idée d'origine.
Et donc, ça c'est l'idée qui a déclenché qui était au départ de l'écriture?
Voilà, non, de l'écriture, non, mais c'est au départ d'une réflexion où je me suis dit, tiens, voilà, imaginons quelqu'un qui pourrait pas se fier à ses propres souvenirs. Et de là, c'est là que j'ai commencé en fait à avoir des post-it. Je pense que quelqu'un qui peut pas s'y à ses propres souvenirs, ça devait être un des premiers post-it.
Et ensuite, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même en écrivant sur un livre? C'est quoi la différence finalement entre écrire un épisode de votre chaîne YouTube ou de votre web série. Qu'est-ce qui était différent dans l'acte d'écrire?
Alors bon, déjà le premier truc que j'ai appris, c'est que j'ai vraiment aimé ça. Moi j'avais peur d'arriver au bout de 20 pages, soit d'avoir écrit l'histoire au bout de 25 pages, d'avoir fini l'histoire, soit au bout de 150 pages de plus avoir envie d'écrire. Donc déjà c'est le premier truc, c'est que j'ai vraiment aimé ça. La grosse différence par rapport à tout ce que j'ai pu faire avant, c'est que tout ce que j'ai fait jusqu'avant était parlé. Y compris mes deux premiers livres chez Marabout, qui sont des adaptations donc de mes vidéos.
Ouais.
Où j'écris comme je parle. Ça, je m'adresse au lecteur exactement comme je parle à la caméra dans mes vidéos. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'était quelque chose qui me faisait un peu peur. Pour être clair, c'est sans doute pour ça aussi que j'ai inséré des chapitres dans lesquels Sylvain parle au lecteur
directement. Il s'adresse à lui, il interagit avec lui,
et c'est là qu'il peut dire des mots comme des baroulés,
par exemple.
Voilà, et donc pour moi ça a été une vraie, parce que jusqu'à maintenant, effectivement, comme pour un RL3 où j'ai finalement écrit des scénarios, quoi, c'est tout, c'est-à-dire que il faut toujours montrer ce qu'on ne dit pas à l'image. Et là, sans image, c'est qu'on doit écrire ce qu'on ne dit pas. Et c'est un exercice vraiment différent, mais que j'ai bien aimé.
Alors, RL3, ouais.
Pardon.
Allez-y.
C'est sans doute pour ça que j'ai eu du mal dans ce livre, parce que j'étais vraiment très orienté sur l'action. J'ai sans doute eu du mal dans ce livre à rentrer vraiment dans la tête des personnages.
Et est-ce que vous avez répondu à toutes les questions sur Sylvain?
Alors, j'ai répondu à toutes les questions qui sont posées dans ce livre. Mais si la question est de savoir est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions qui pourraient se poser, oui, il en reste.
Bien. L'ultime expérience, c'est le premier roman que publie Bruce Benamran, et c'est chez Flammarion, et on en parle jusqu'à 13h dans le Book Club.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, le Book Club qui reçoit aujourd'hui Bruce Benamran, qui publie son premier roman. Ça s'appelle L'Ultime Expérience aux éditions Flammarion. On en parle aujourd'hui sans essayer de trop raconter ce qui s'y passe dedans. Suspense garanti jusqu'à la fin. 500 pages, c'est beaucoup 500 pages, et c'est ce qu'on appelle un page-turner, puisque les chapitres sont courts et vous vous arrêtez pas, quoi. Vous le lisez d'une traite. Donc c'est un vrai bonheur. Ce qui peut faire peur parfois quand on voit des livres de 500 pages. Les romans français sont souvent moins gros.
Oui, alors En vrai, j'avais pas prévu. J'avais pas prévu la taille, en fait. J'ai écrit l'histoire, et puis arrivé à la fin, je suis allé voir mon éditeur en disant, bon voilà, ça fait grosso modo, selon la taille de la police qu'on met, ça fait grosso modo 480 ou 500 pages. Est-ce qu'on est bon? Il m'a dit, on est bon. Je dis, bon, bah voilà.
Et ça se lit,
il passe beaucoup de choses, quoi.
Voilà, et ça se lit vraiment d'une traite. Vous parliez tout à l'heure de la web série que vous avez fait, qui s'appelle RL3. Alors beaucoup de vos fans se sont demandé ce que ça voulait dire RL3, qu'est-ce qu'il fallait y voir, est-ce que c'était Real 3, ou enfin, c'est quoi qui se cache derrière ce nom?
Alors c'est le problème. Alors, si vous entendez une différence de son, c'est simplement que mes écouteurs sont tombés en rate, donc du coup je suis directement sur l'appareil maintenant. J'espère que le son est toujours bon.
Bah, on est à distance. Alors c'est vrai que parfois c'est moins fluide pour. Mais bon, on s'adapte au confinement, Bruce.
Oui. Mais plus on s'adapte bien, ça fonctionne bien. Donc RL3, en fait, ce qui se passe, c'est que je peux malheureusement pas répondre à la question de ce que ça signifie, puisque moi, tel que j'ai prévu RL3, en fait, c'est une histoire qui se raconte en 5 saisons. J'ai déjà les trames des 5 saisons. Pour l'instant, il y a que la première saison qui a été tournée, puisque c'est quelque chose que j'ai produit moi-même. Je suis absolument incapable de produire la suite tout seul. Et en fait, la signification du mot RL3, c'est vraiment dernière image du dernier épisode de la dernière saison. Quoi.
D'accord. Donc en gros, ce sont des gens qui sont enfermés dans une pièce.
Alors RL3, voilà, le principe c'est ça. Il y a une pièce qui n'a ni porte ni fenêtre, et puis il y a des gens qui sont enfermés dedans, qui ne dorment pas, qui ne mangent pas, mais en même temps, ils sont pas fatigués, ils ont pas faim, ils ont pas soif, et ils savent pas ce qu'ils font là. Ils savent pas comment ils sont arrivés, et qu'ils cherchent à sortir.
Donc vous avez prévu 5 saisons, vous nous l'avez dit. Pourquoi l'épisode 2 est avant l'épisode 1?
Alors en fait, l'épisode 2 est pas avant l'épisode 1, ce qui s'est passé. Ça c'est vraiment un problème très youtubesque. C'est que comme j'avais décidé de sortir un épisode par semaine, mais pour donner un peu de matière aux gens, puisque c'était vraiment nouveau sur ma chaîne de faire de la fiction, j'avais mis les deux premiers épisodes le même jour. Donc je les ai mis en ligne en même temps. Et ce qui se passe, c'est que le 2 est arrivé, il a été fini d'être encodé par YouTube, d'être traité par YouTube, quelques secondes ou quelques minutes avant l'épisode 1. Et donc pour YouTube, il est sorti avant.
D'accord. Donc c'est pas vous qui l'avez fait exprès. Parce que le prisonnier, des fois, il y avait des ordres qui sont pas toujours même. Donc là, c'est indépendant de votre volonté.
Ah oui, là, ce truc-là en particulier, c'est indépendant de ma volonté. Mmh.
Vous jouez avec notre frustration à l'heure de la compulsion télégénique et des Netflix. Ça, c'est intéressant.
Bah, ce qui se passe, c'est que moi, j'avais envie aussi de retrouver ce truc-là, parce que moi, pour le coup, j'ai grandi avec des séries où, fallait attendre une semaine entre chaque épisode, et puis à la fin de la saison, fallait attendre quasiment un an pour avoir la suite, quoi. Donc, il y a autant, je reconnais, c'est-à-dire que moi, je prends beaucoup de plaisir à binger des séries. Dans le même temps, ce qui se passe, c'est que je me rends compte que maintenant que je suis sur Netflix et que je regarde une série, ok, je vais la regarder en 12 heures, mais, une semaine après, j'ai oublié ce que j'ai vu. Alors que les séries que j'ai regardées quand j'avais 18 ou 20 ans, à raison d'un épisode par semaine, je m'en rappelle encore aujourd'hui.
Eh, le plaisir vient du manque, hein.
C'est-à-dire qu'il faut créer du manque pour créer de l'envie, quoi. À un moment donné, s'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de désir.
Vous avez trouvé les moyens de financer la suite ou pas encore?
Alors, pour la suite d'Arelfan, en fait, ce qui se passe, c'est que j'avais commencé à discuter assez sérieusement avec une boîte de production du côté de Strasbourg, donc là où j'habite, mais en plus une boîte de production qui a l'habitude de travailler, de faire des séries, des web-séries, tout ça, donc il n'y avait absolument pas peur de ce genre de projet. Et ensuite, on est rentré en premier confinement, donc au mois de mars. Et ce qui se passe, c'est que cette boîte de production avait elle-même ses propres productions qui devaient démarrer en mars, en avril, en mai. Enfin, elle avait des productions par ailleurs, donc il a fallu qu'elle se concentre vraiment sur la gestion de tout ça, sur le fait de reporter des choses. Alors, ça se trouve, ils ont reporté des choses en ce moment, ça ne doit pas leur simplifier la vie. Et voilà, mais donc le dossier, pour l'instant, il est en attente.
D'accord, donc on n'a pas de date pour la diffusion de la deuxième saison d'Arel 3.
Ah non, du tout. On est loin. On est loin d'avoir une date.
Alors, une question que se posent beaucoup vos fans, c'est quand vous publierez une vidéo qui concerne Nikola Tesla? Pourquoi ça vous prend tellement de temps et pourquoi c'est quelque chose qui revient?
Alors, en fait, bon, c'est un peu ma faute. C'est un petit peu ma faute. C'est-à-dire que j'ai... Bon, moi, au début de ma chaîne, j'avais dans le fond de mon décor un tableau de Nikola Tesla. Enfin, un portrait de Nikola Tesla en tableau. Et les gens me demandaient de parler de Nikola Tesla. Et puis à un moment donné, je leur ai dit, mais attendez, moi j'ai tellement de choses à raconter sur Nikola Tesla que je peux pas juste faire un épisode simple. Et du coup, c'est devenu une espèce de truc un peu légendaire qui allait arriver sur la chaîne, qui aurait un très très gros épisode sur Nikola Tesla. Et à force de reporter ce truc-là et d'annoncer que ce serait énorme, eh ben, il a fallu que je commence à imaginer quelque chose d'énorme. Et le projet est devenu tellement énorme qu'aujourd'hui, ce serait vraiment... Ce serait quasiment impossible que j'en fasse un épisode simple. Aujourd'hui, si je faisais un épisode simple en disant, bon voilà, Nikola Tesla, il a vécu à telle période, puis il a fait ci, ça, ça et ça, ça marcherait pas du tout. Et en même temps, ce que j'ai envie de faire, parce que pour le coup, j'ai écrit des choses, hein, j'ai prévu maintenant de faire une mini-série sur Nikola Tesla, sur ma chaîne. Sauf que, voilà, j'ai eu la folie des grandeurs et que ça devient quelque chose de très, très compliqué à mettre en place. Alors, déjà, de base, tout particulièrement en ce moment. C'est-à-dire qu'il y aurait notamment des scènes à filmer. Moi, c'est l'exemple que je donne à chaque fois quand les gens ne comprennent pas pourquoi ça met tant de temps. Je dis, moi, j'ai une scène à faire au chute du Niagara, mais sans touristes.
Oui, ça, c'était au premier confinement, ça.
Voilà, donc ça, c'est un peu compliqué.
Ouais. Il vous en reste encore beaucoup des rouleaux de papier peint Vénilia, là, ou pas, ou c'est fini?
C'est le dernier. C'est-à-dire que celui du fond de mon décor, on l'a utilisé jusqu'au dernier centimètre carré.
Il n'y en a plus, là, après, c'est bon, ouais.
Non, il y en a plus. Mais après, on va être très clair. Si vous allez sur un moteur de recherche et que vous cherchez papier peint baroque, c'est le premier qui sort et c'est un des moins chers. Moi, ça a été une des contraintes budgétaires de la création d'Arel 3. C'était de trouver un papier peint pas cher parce qu'à la base, à l'origine, il n'était pas prévu que cette pièce ait du papier peint. Il était prévu que cette pièce ait des murs blancs. Le problème, c'est qu'à l'image, si vous avez des murs blancs, vous n'avez pas d'accessoires, pas de meubles ni rien, vous n'avez aucune profondeur. Du coup, vous n'avez aucune perspective. Vous savez pas où les gens sont, comment ils se déplacent. Ça peut être un genre, mais c'est très compliqué. Et le fait d'avoir un papier peint, mine de rien, ça donnait de la perspective à la caméra, en fait.
Bien. Et puis c'est le papier peint dont vous vous servez également comme décor à toutes vos vidéos.
Désormais, ouais.
Ouais. Qui a eu la plus grosse influence musicale au cours des derniers siècles? En tout cas, du dernier, là, on va dire du 20e.
Le 20e. Alors, à titre personnel ou au niveau de l'histoire, je pense qu'au niveau de l'histoire, le moment clé qui a eu la plus grande influence musicale sur les, allez, on va dire sur les 50 ou 60 dernières années, c'est une chanson des Buggles qui s'appelle Video Killed the Radio Star.
Alors, il y avait un message, hein. On l'a vu, la vidéo n'a tué personne.
Mais en plus, alors après, moi, il faut quand même que je précise une chose, c'est la plus grande influence au regard de ce qu'ils ne sont pas connus. Parce que sinon, on va effectivement dire, voilà, les Beatles ont eu une énorme influence sur toute la musique pop. Bien sûr, mais les Beatles, tout le monde le sait qu'ils ont une influence. Alors que les Buggles, sinon, ils n'expliquent personne. C'est-à-dire, personne ne pense aux Buggles. Sauf que parmi les Buggles, on avait le chanteur qui s'est retrouvé à produire absolument tout le monde dans les années 80-90. Il est à la base de la création de tout un tas d'artistes et d'albums. Et puis il y a un des musiciens du groupe, donc, qui se trouve être Hans Zimmer, qui a fait toutes les grandes musiques de films auxquelles on pense ces dernières années. Quand c'est pas John Williams, c'est Hans Zimmer, quoi.
Et le chanteur, c'était Trevor Horn.
Ouais.
Voilà.
Qui aujourd'hui est un producteur dingue. Quand on regarde, si on regarde sa page Wikipédia, on regarde tout ce qu'il a produit, c'est hallucinant.
Est-ce qu'il avait prévu YouTube, puisque finalement on parlait de la vidéo, c'était les débuts et la création de MTV, les Buggles, mais est-ce qu'il avait anticipé cette création de YouTube?
Je pense au final qu'il avait anticipé pas mal de choses. C'est-à-dire que leur album, quand il est sorti, alors de mémoire, je crois que donc cette chanson date de 79, mais l'album, je crois qu'il date de 80 ou 81, qui s'appelle Age of Plastic. Je pense qu'ils avaient assez bien anticipé le monde sur un court terme. Après, ils avaient aussi tous les fantasmes qu'on avait à l'époque, hein, des voitures volantes et tout ça. Mais oui, c'est-à-dire que il avait anticipé, je pense, l'arrivée, l'essor de la vidéo. Après, il a commis cette erreur que beaucoup ont commis à propos de la télé et que beaucoup commettent aujourd'hui à propos d'Internet. C'est-à-dire que il a pensé que la télé allait tuer la radio, ce qui n'est jamais arrivé, de la même manière que Internet n'a jamais tué la télé.
Est-ce que d'avoir une chaîne YouTube, ça aide pour se faire publier, pour publier son premier roman?
Oui, bon, on va pas se mentir, oui, clairement. Après, ce qui aide aussi, je pense, c'est alors, si vraiment je le déroule dans l'ordre, c'est avoir la chaîne YouTube et avoir la communauté engagée qui suit, ça aide à faire le premier livre qui est une adaptation de la chaîne YouTube. Et ensuite, les résultats de ce livre, ça aide aussi à... C'est-à-dire que, clairement, on est actuellement, je veux dire, même pas cette année, c'est vraiment très particulier, mais c'est-à-dire que les maisons d'édition, l'industrie du livre, c'est vraiment quelque chose de compliqué et de fragile. Et je pense que c'est très rassurant pour une maison d'édition de se dire, cet auteur-là, on sait qu'il en vendra au moins à ses fans.
Vous en avez combien, vous, des fans? C'est énorme.
Tout dépend ce qu'on entend par fan, parce que moi, c'est ce que j'ai toujours, c'est que moi, ma communauté, entre guillemets, elle m'appartient pas. C'est-à-dire que sur ma chaîne YouTube, j'ai, je crois, ça doit être à 1 148 000 personnes, quelque chose comme ça. Mais c'est pas 1 148 000 personnes, si je leur dis d'acheter mon livre, ils vont l'acheter. Je veux dire, c'est des gens qui sont libres, qui font ce qu'ils veulent et qui parfois n'aiment pas ce que je fais. C'est juste, voilà, la seule chose que je retiens du fait qu'ils sont abonnés, c'est qu'ils veulent être informés quand il y a une nouvelle vidéo qui sort.
Là, vous avez beaucoup travaillé sur votre livre, mais vous travaillez sur quoi, les prochaines vidéos qui arrivent? Sur y penser?
Moi, je me suis bêtement laissé surprendre par la deuxième vague, hein, comme pas mal de gens. C'est-à-dire que moi, j'avais prévu des dédicaces et la promotion du livre jusqu'à la fin d'année. J'avais prévu d'aller à Lille, d'aller à Brest, d'aller à Saint-Didier-des-Vosges, d'aller à Toulon, d'aller un peu partout, d'aller en Suisse, en Belgique. Et donc, du coup, j'avais pas de vidéo prévue. Puisque généralement les vidéos, ça demande quand même un peu de préparation et tout et de temps, et donc j'avais pas de vidéo prévue quasiment jusqu'à la fin de l'année. Et donc là, je suis en train de me réorganiser pour essayer justement de sortir des vidéos et en même temps que ce soit des vidéos intéressantes. C'est pas juste histoire de vlogger pour dire je suis dans mon bureau, c'est le confinement.
Et comment vous faites justement pour préparer un sujet? Vous lisez, vous traitez que des sujets que vous connaissez?
Alors, déjà de manière générale, je fais pas une vidéo sur un sujet que je connais pas, et je vais jamais plus loin que ce que je connais du sujet. C'est-à-dire que quand je veux parler de relativité générale, je vais jamais plus loin que ma compréhension de la relativité générale, qui est somme toute assez sommaire. Maintenant, Comment est-ce que tout ça démarre? En général, ça part d'une question. C'est d'une question que je me pose, qui peut vraiment être une question basique du style « qu'est-ce que la relativité générale ?» Mais ça peut être aussi une question plus terre-à-terre, j'ai envie de dire, du style « pourquoi est-ce que l'eau est transparente ?» Et après, du coup, je creuse, je lis, je cherche des informations. Si ça repose sur des hypothèses, voilà, s'il y a des études, des publications, des articles. En général, comme je m'occupe peu de l'actualité scientifique, et je suis vraiment sur des choses plus anciennes, en général, on n'est pas sur des publications, parce qu'on est sur des choses qui sont très admises. Ouais. Si à un moment donné, je veux parler d'électromagnétisme avec Maxwell, aujourd'hui, il n'y a pas des études de gens qui cherchent à voir si Maxwell avait raison. C'est bon, on sait maintenant qu'il avait raison, et on sait où est-ce qu'il a eu raison, où est-ce qu'il a eu tort. Donc c'est assez facile à remonter. Mais j'essaie toujours de trouver l'angle. Déjà, ce qui va être intéressant pour un public qui n'est pas scientifique, parce que moi, je m'adresse avant tout à un public qui n'est pas scientifique, enfin, j'essaye. Et aussi, j'essaie de toujours de trouver une petite histoire à raconter, une petite histoire pour raconter la grande, en fait.
Bien, alors, votre chaîne s'appelle, pour ceux qui ne la connaissent pas, E-Penser, ça se dit I-Penser.
Comme email, voilà.
Voilà, et votre livre qui vient de sortir, votre premier roman, s'appelle L'Ultime Expérience. L'éditeur, c'est Flammarion, Bruce Benamoran. Je suis désolé de ne pas vous avoir vu en vrai aujourd'hui, mais en tout cas, j'étais ravi de vous parler.
On dit qu'on fait ça en 2021, parce que moi aussi, j'en peux plus de ne pas voir des gens en vrai.
Voilà, en 2021. Merci d'avoir été avec nous et bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.